depuis hier soir, a commencé la semaine de prière qui se terminera le mardi 22. Vous étiez présent ou pas, l'important est de savoir que Jésus nous aime tous et qu'il nous appelle à son divin rendez-vous au ciel dans un proche avenir. Répondons-lui, acceptons encore et encore son amour, son appel et sa réponse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, combien nous sommes pécheurs. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, nos fautes ne te sont point cachées. Toi qui sièges dans les cieux, nous levons nos yeux vers toi. Aie pitié de nous. Que toute cette semaine soit bénéfique pour chacun et chacune. Déverse, Père, tes bénédictions en abondance sur tes enfants. Que tes desseins s'accomplissent dans notre vie. Éternel, que cette semaine de prière soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, fais-nous posséder une connaissance réelle de ton amour et avoir fait l'expérience de ta présence en nous. Nous savons ce que tu es et désires pour nous à travers ta parole sainte, la Bible. Mais que sommes-nous pour toi? C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'adressons cette prière au Éternel. Amen. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand. Le 17 de ce mois, une année d'existence. Toutefois, il faut noter que les émissions furent présentées pendant bon nombre de mois par Sœur Tatiana, la responsable, son mari et leurs trois enfants. Quel courage devait être le leur, surtout pour les enfants qui devaient se coucher tard et se lever tôt pour aller à l'école le lendemain. En lui cédant la parole, elle vous en dira plus. Écoutons-la.
Sœur Tatiana, étoile 7, s'il vous plaît. Étoile 7 de préférence. Tu as fait étoile 7, sœur Tatiana? Sœur Marlène? Est-ce que tu peux faire étoile 7? Oui.
Allô?
Oui, sœur Tatiana.
Oui, bonsoir, frère Mon Désir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à tous nos frères et sœurs et amis de la ligne Prière sans frontières. Je souhaite partager un moment avec vous ce soir pour la semaine de prière. Comme la sœur Marlène vient de dire, une semaine où nous allons étudier la parole de Dieu et que nous allons prier, passer un moment ensemble. Je vous lis un texte qui se trouve dans Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je répète, car ceux qu'il a connus excusez-moi, d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et quelques phases par la suite. Au moment le plus ardent de nos épreuves, il est bon de nous rappeler que Dieu désire que son image soit reflétée en nous. Il n'éloigne pas les yeux un instant de toi ni de moi. Quand les flammes nous raffinent, il nous éloigne les flammes avant que nous soyons détruits. Et c'est justement en cet instant que nous apprenons la leçon de cette vie qui nous permet de refléter son amour, sa sensibilité et sa compassion. Rien n'arrive par hasard. Et rien n'échappe au regard attentif de notre Père. Le Seigneur a les yeux fixés sur vous et sur moi, pour que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Puissions-nous nous rappeler cela au milieu des épreuves et de la douleur. J'ai trouvé ce texte, il m'a parlé, et là je voulais le partager avec vous, chers frères et sœurs. Et quand je pense aussi au thème de cette semaine de prière, Jésus, son amour. Jésus, mon amour, qui fait appel à moi encore une fois, qui me dit qu'il est la réponse dans mes épreuves. Et je remercie le Seigneur pour son appel et le rappel, parce que Dieu nous appelle tout le temps. Il frappe. Il a dit, si vous entendez, ouvrez la porte. Alors, je remercie le Seigneur pour cette semaine de prière qu'il nous a donnée et que cette possibilité de nous rapprocher de lui, de dire, Seigneur, je veux cet amour. Je veux entendre ton appel et je veux que tu sois ma réponse, que tu apportes la réponse que j'attendais. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs qui nous écoutent ce soir. Parce que ce n'est pas toujours évident, mais Dieu vous a permis d'être là pour écouter. Alors soyons prêts, frères et sœurs, à écouter, à répondre à l'appel de notre Seigneur. Je vous demande de prier avec moi après ce moment pour demander à Dieu de nous aider et que nous puissions être à l'écoute, vraiment. Parce que nous vivons vraiment notre dernier instant et que le Seigneur nous aide. Je vous invite à prendre position pour prier et que nous allons prier, nous allons intercéder. Éternel notre Dieu, trois fois saint, en cet instant, Seigneur, je te prie, non parce que, Seigneur, je mérite quelque chose, Père éternel. Je n'ai pas de mérite, Père éternel, mais je te prie, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce. Parce que, Seigneur, tu nous as dit que tu es notre amour et que tu nous appelles et que tu es tellement patient, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur, tu ne tournes jamais tes regards, Seigneur. Tu ne détournes jamais de nous. Alors, Seigneur, tu nous fais des promesses que tu seras toujours fait. Alors, ce soir, Seigneur, je te prie pour chaque personne, Seigneur Jésus, branchée sur cette ligne de prière. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour cette année. Parce que, Seigneur, ça fait un an que prière est à la filiale de la France. Et que nous travaillons, Seigneur, ensemble, avec des collaborateurs, des enfants, Seigneur, que tu as mis sur nos chemins. Et que je te prie pour cette année, Seigneur Jésus, où tu as été avec nous, Seigneur, Papa. Et que en ce soir, Seigneur, je suis vraiment ravie, ravie d'être à tes pieds, pour te louer, pour t'adorer en esprit et en vivant. Et pour te rendre gloire, Seigneur, avec tous les frères et sœurs, branchés sur la ligne avec pour cette grâce, Seigneur Jésus, parce que tu as pensé à nous, Seigneur, parce que, Seigneur Dieu, cette filiale a changé ma vie. Et j'espère, Seigneur, qu'il a changé la vie, Seigneur Dieu, d'autres personnes sur cette vie. Je te prie aussi, Seigneur, pour le directeur, Frère Mondésir, et tous ses collaborateurs, parce que, Père éternel, si tu n'avais pas utilisé, Seigneur Jésus, si tu n'avais pas fait cette grâce, Seigneur, et que je me demande aujourd'hui comment ça allait se passer. Peut-être une autre personne, peut-être un autre engagement, quelque chose d'autre. Mais Seigneur, nous sommes là. Et je te remercie, Jésus, pour tout cela. Seigneur, je te prie d'être avec notre frère Christ, qui va parler en toi. Et je te prie, Seigneur Dieu, spécialement pour Sœur Marlène, malgré la fatigue. Oui, Seigneur, elle est toujours là. Et je te prie, Seigneur, pour l'équipe Prière sans frontières, la filiale française. Oui, Seigneur, nous travaillons pour ta seule gloire et pour notre bien. Parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour ta gloire et notre bien. Seigneur, je te loue. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Parce que tu as dit que tu nous donnes ta paix, comme le monde. Oui, Seigneur, parce que pendant cette semaine, moi personnellement, oui, Seigneur, c'est que je reçois la paix. Ton amour, Seigneur. Et je répondis oui, Seigneur, comme une fois. Parce que je sais que tu es ma réponse. Dans toutes mes épreuves, dans toutes mes difficultés. Alors, Seigneur, en ce soir, je crie gloire. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Père. Merci pour ce programme. Merci pour chaque personne, Seigneur Jésus. Chaque personne branchée, Seigneur Dieu, Jésus. En ce soir, Père éternel, pour écouter ta parole, pour partager, Seigneur Dieu, avec nous, ta parole, cette vérité, Seigneur, qui nous déchire. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Vraiment, Seigneur, nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu nous aimes, pour qu'à notre tour, Seigneur, nous puissions aimer ceux qui sont autour de nous. Oui, Seigneur Jésus, de partager cet amour. Oh Père éternel, garde-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous abondamment, parce que tu es la réponse. Au nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. Amen.
Amen.
Merci, Sœur Marlène. Et bonne continuation, frères et sœurs.
Donc, à la famille Talisman, je souhaiterais leur dire que les demeures de l'Éternel des armées sont aimables. Ceux qui habitent sa maison sont heureux, ils peuvent le célébrer encore. Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Votre force, famille Talisman, a augmenté pendant cette marche en servant Dieu dans une autre dimension de votre vie. Vous avez tenu bon, vous avez compté sur votre Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel, le Dieu des armées, votre bouclier, a écouté vos prières, chère famille Talisman. Continuez à vous confier en lui, qu'il vous bénisse abondamment.
Amen.
Frères et sœurs, amis chrétiens, vous avez entendu hier et continuerez à l'entendre et pourquoi pas l'apprendre, le chantème que voici. Répondons à l'appel de Jésus, mon divin maître. Avec lui, je suis sorti du pays du malheur. Délivré par son pouvoir, je ne veux plus connaître que la grâce et l'amour de mon Sauveur. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bord. Bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Bien au loin, j'entends l'écho des vains bruits de la terre. L'écho triste et douloureux d'un monde révolté. Mais désormais, mon seul bien, c'est la croix du calvaire. C'est Jésus, sa gloire, sa vérité. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bonheur abonde. Sous un ciel toujours d'azur, oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Par la ruse et les menaces voulant ma défaite, Satan lance contre moi ses flèches enflammées. Mais Dieu m'offre sa parole une sûre retraite. Et pour capitaine, le bien-aimé, j'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde. Sous un ciel toujours d'azur, oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. L'ennemi peut donc venir, je ne crains pas sa rage. Seul, je ne suis rien, mais mon fort. Bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Ici je contemple ému la création sublime. j'adore à deux genoux Jésus jour après jour. Mille voix font monter de la plaine et de la cime un chant de louange, un chant d'amour. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je veux dresser ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Amen. Veux-tu être guéri? Tel est le sujet que va présenter frère Christophe. Le texte de référence se trouve dans Luc 7, le verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Frère Christophe, bonsoir. Tu es
bonsoir,
toujours
Marlène.
Le bienvenu.
Merci. Est-ce que tu m'entends bien?
Oui, on t'entend très bien.
Oui, merveilleux. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver.
Nous,
ce soir, j'aime. C'est gentil, Marlène. Bonsoir, frère Mon Désir. Bonsoir, Tatiana, et à tous ceux qui nous écoutent ici ou ailleurs. J'ai un petit peu la voix grave. Rien de bien grave, rien de bien méchant. C'est, voilà, c'est juste une petite voix grave ce soir. Donc, je ne suis pas malade, rassurez-vous. Et je suis heureux de partager avec vous cette parole. Je ne vais pas non plus parler très fort parce que sinon je vais abîmer. Je veux rester dans ce merveilleux thème que Prière sans frontières a choisi. Et avec un texte qu'on ira, on n'ira pas ce soir pour gagner du temps, mais vous pouvez trouver ce texte dans Luc 7 ou alors dans Jean 12. C'est l'histoire, eh bien, de certaines personnes qui se trouvent chez un pharisien. Alors, je vais vite aller au cœur même de cette histoire. Jésus est invité chez Simon. Vous connaissez Simon, pour ceux qui sont des étudiants de la Bible. On sait que Jésus est invité et on sait qu'il est reçu avec tous les égards dus à sa personne. On sait que sa réputation fait de lui un éminent docteur de la loi. Alors, est-ce que Simon est fier ou pas de recevoir Jésus à sa table? En tout cas, Simon a un intérêt. Il a des arrière-pensées en faisant venir Jésus chez lui et à Béthanie. Alors, Simon est heureux parce qu'il y a tout le gratin intellectuel, rabbinique. Ce sont tous des érudits qui sont à sa table. Simon connaît la réputation de Jésus, hein. Il sait qu'on dit que Jésus ne respecte pas le sabbat. Il connaît Jésus, il sait qu'on dit aussi de Jésus qu'il ne pratique pas les rites obligatoires, les rites d'ablution, de purification. On dit de ce Jésus qu'il fréquente et qu'il mange avec les païens, ça aussi Simon le sait. Et on dit même que Jésus est un ivrogne et un glouton. Ce sont évidemment toutes ces accusations, eh bien, qui courent dans Béthanie. Donc Simon veut confronter le rabbin Jésus aux autres rabbins, aux autres pharisiens. Il veut le confronter aux, on dirait, aux bien-pensants, aux intellectuels, aux docteurs de la loi. Alors, aujourd'hui, on appellerait ça un petit café chrétien. On invite du monde autour d'une table pour débattre. Et les gens savent que Jésus est l'un des meilleurs rabbis d'Israël. Donc c'est un petit peu un dîner-débat, un café-débat, et Simon veut confronter Jésus à tous ses invités. Mais ça ne va pas se passer comme Simon veut, même si ça se passe chez lui. Le texte nous dit, hein, Luc 7 ou Jean 12, qu'une femme arrive et elle n'est pas du tout animée des mêmes sentiments que Simon. Elle a une très mauvaise réputation, très très mauvaise réputation. Le texte nous dit que c'est une pécheresse. Simon la connaît, et pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, ils savent très bien qu'il y a une relation entre Simon et Marie-Madeleine, parce que la tradition chrétienne nous dit qu'il s'agit de Marie-Madeleine. On sait que Marie-Madeleine était une prostituée, qu'elle fréquentait la cour du roi Hérode Antipas, et qu'elle se prostituait. à la cour du roi Hérode Antipas. Et ça, les pharisiens détestaient absolument cela. Et d'ailleurs, Simon le premier. Alors, on classait cette femme parmi les plus détestables, les plus infréquentables. Il ne fallait surtout pas s'approcher d'elle, par peur d'impureté, par crainte d'impureté. Il fallait surtout pas ni croiser son regard, ni la croiser physiquement. Elle cumulait au fond, toutes les fautes, cette femme. D'ailleurs, c'est une femme en premier. Hein. C'est une pécheresse. C'est une païenne. C'est une prostituée. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup dans le curriculum vitae. Encore une fois, il ne fallait rien avoir avec cette femme. D'ailleurs, cette femme n'avait rien à voir avec le dîner. Elle n'aurait jamais, jamais dû entrer dans une maison où il y avait que des hommes. Vous le savez, c'était à l'époque la tradition. Donc, en fin de compte, Marie-Madeleine, c'est une moins que rien. Mais il va se passer quelque chose. Le verset qui vous a été lu par Marlène vous donne un petit détail, c'est Jésus qui dit ça. Mais avant que Jésus prononce cette phrase, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui a marqué au fond Jésus-Christ pour qu'il dise que ses péchés lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus-Christ pour qu'il dise ça de cette femme? Nous connaissons le Jésus-Christ qui ressuscite, nous connaissons le Jésus-Christ qui réhabilite, qui guérit, mais qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là de particulier dans le cœur de Jésus-Christ? Eh bien, il va se passer quelque chose, c'est que cette femme est venue et elle a pleuré aux pieds de Jésus. Elle a même inondé de ses propres larmes les pieds, ou ça dépend d'un autre auteur, la tête. Mais il est possible que ça ait été à la fois les pieds et la tête, parce que Jésus, à l'époque, avait une position, tout le monde mangeait à moitié couché, vous le savez, ils n'étaient pas autour d'une table assis comme nous aujourd'hui en Occident, mais ils étaient couchés. Donc il était facile d'inonder de ses pleurs à la fois les pieds et la tête. Cette femme a pour Jésus de la gratitude. Nous savons que le texte dit qu'elle va essuyer délicatement avec ses cheveux les pieds de Jésus, qu'elle va embrasser et elle va oindre Jésus-Christ d'un parfum qui coûte très 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 cher à l'époque. Très très cher. Mais au fond, moi je me pose la question, qu'est-ce que cette femme finalement a compris que tous les autres invités n'ont pas compris dans cette salle et qu'est-ce qui a bien pu toucher le cœur de Jésus? Parce que son cœur a été touché. Lui aussi, bien sûr, cette femme a compris quelque chose qu'aucune autre personne dans la salle n'a compris. Et aujourd'hui, nous devons constater que nous ne comprenons pas toujours aussi ce qui s'est passé dans cette pièce avec Marie-Madeleine à Béthanie. N'est-ce pas? Jésus dit de cette femme qu'elle a beaucoup aimé. Chers amis, chers auditeurs, moi personnellement, j'aimerais tellement que Jésus, quand il parle de moi aux anges dans le ciel, quand il s'adresse à son Père, quand il s'adresse au Saint-Esprit, qu'il dise que je l'aime beaucoup. Ça me touche ce soir de vous dire ça, mais j'aimerais l'entendre de la bouche de mon Sauveur. Oui, Christophe m'aime beaucoup. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Il a trouvé que cette femme l'a beaucoup aimé. Cette femme qui s'est donnée aux hommes, qui se donnait aux hommes par sa prostitution, a ressenti, elle, dans son cœur, ce que aucune autre personne dans ce dîner-débat n'a ressenti. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Elle a ressenti quelque chose que nous ne ressentons toujours pas. Mais je ne suis pas là ce soir pour nous culpabiliser tous, hein. C'est pas une culpabilisation, une culpabilité collective. Mais il faut avouer que elle a ressenti la détresse de son âme. Nous sommes bien dans le cadre de l'amour. Elle a ressenti la détresse de son âme. Cette femme s'est sentie perdue. Cette femme qui était méprisée des autres a fini par se mépriser elle-même. De par son métier, évidemment, et de sa condition de femme. Cette femme s'est sentie coupable aux yeux des autres, mais aussi à ses propres yeux. Mais une chose s'est passée dans son cœur, une chose. Et cette chose-là, Christ l'a perçue tout de suite. Cette femme, elle s'est sentie aimée par Jésus-Christ. Et c'est là le point important. Elle a fait l'unique rencontre avec l'unique personne qui pouvait l'aimer, l'unique personne qui pouvait la sauver, Jésus-Christ. Et c'est ça qui a fait agir cette femme. C'est ça qui l'a fait casser tous les codes de la société à l'époque. Rentrer dans une pièce où il n'y a que des hommes, se précipiter sur Jésus, se mettre au niveau de Jésus-Christ, embrasser ses pieds. Personne à l'époque n'oserait faire ça. Elle, elle l'a fait, non pas pour se démarquer des autres personnes, simplement elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie aimée et elle a senti qu'au contact de Jésus, sa propre vie n'était pas en adéquation avec Jésus-Christ et son évangile. Elle a donc fini par pleurer sur sa condition de pécheresse. C'est pour ça que Jésus dit lui-même, elle a beaucoup aimé, parce qu'effectivement, elle a confessé ses péchés. Cette femme, à ce moment-là, a découvert ce que signifiait d'avoir un sauveur. Oh, si nous pouvions saisir ce soir, cette semaine, à l'occasion de cette semaine de prière, qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre vous que d'avoir un sauveur? Je vous posais la question hier, qui est Jésus pour vous? Qui est pour vous, pardon, Jésus-Christ? Ce soir, je voudrais tant vous dire, mais avez-vous rencontré votre sauveur personnellement? Et si c'est le cas, tant mieux. Mais renouvelez encore une fois cette rencontre, parce que vous ne lasserez, vous ne fatiguerez jamais le Christ de venir à lui et de renouveler votre amour, renouveler votre engagement. Nous sommes souvent très empreints, nous les êtres humains, nous n'osons pas avec Christ. Alors nous nous sommes baptisés, pour ceux qui le sont, on considère qu'on a fait la plus grande part des choses, nous avons une espèce de pudeur. Voilà, je cherchais le mot vis-à-vis de Christ. Mais Christ n'a pas de pudeur pour nous. Venez à moi, venez à moi. N'hésitons pas à renouveler notre engagement. N'hésitons pas à retomber, s'il le faut, amoureux de Jésus-Christ. Dieu, Jésus, aime l'amour. Il est l'auteur de l'amour. Il est l'auteur, le créateur de l'agapé. Cette femme, elle ne s'est pas posée de questions. Elle est venue directement aux pieds du Christ. Elle a connu la grâce, oui, mais c'est une grâce qui sauve, nous le savons, nous chrétiens, mais c'est une grâce, qui transforme. Et nous oublions souvent ça, l'amour de Dieu nous réchauffe le cœur, chers amis, mais c'est un amour qui doit nous transformer. La grâce nous sauve, nous le savons, mais c'est une grâce qui transforme, une grâce qui ne transforme pas, un amour qui ne transforme pas. J'ai envie de vous dire, à quoi ça sert alors d'être chrétien? À quoi ça sert? Avons-nous rencontré notre Sauveur pour la dernière fois? Marie-Madeleine a pris conscience de ce qu'était sa vie. Et le texte biblique nous dit qu'elle a été guérie de 7 démons. 7, hein, pas 1 ni 2, mais 7 démons. On le sait toujours par le texte biblique. Alors, les gens pourront toujours dire, bon, bah, du coup, comme Jésus l'a libérée de 7 démons, c'est normal, hein, elle est venue par gratitude, elle est venue remercier Dieu pour tout cela. Enfin délivrée des démons. Mais au pied de Christ, chers amis, lisez le texte. Elle a fait beaucoup plus que d'avoir des du remerciement. Elle a fait beaucoup plus que d'avoir des gestes de gratitude. Elle a fait plus que de se repentir. Parce que ces larmes qui viennent, parce qu'elle a conscience de sa condition, on est dans la repentance, mais ça va plus loin. Elle est allée plus loin que la repentance. Elle a eu des gestes d'amour. On peut toujours demander pardon à Dieu comme ça. Sincèrement, je ne parle pas de sincérité, je ne vous connais pas. Mais on peut aller plus loin que la repentance. On peut avoir des gestes d'amour pour le Christ. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas mon Sauveur de mes yeux que je ne peux pas avoir des gestes d'amour pour lui. Chers amis, j'ai envie de vous poser la question ce soir, mais de quelle manière nous aimons Christ ? J'entends bien dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de conversations, nous parlons toujours de l'amour de Dieu. C'est juste. Mais pourquoi nous ne parlons pas de notre amour pour lui? J'ai l'impression que c'est toujours dans un seul sens, les prédications, les méditations, les... toujours l'amour de Dieu. Oui, Dieu, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Oh, mais moi, comment je l'aime? Jusqu'où je l'aime? jusqu'où va mon amour pour lui, j'entends honnêtement beaucoup moins. C'est toujours dans un seul sens. Vous avez d'autres scènes bibliques, n'est-ce pas? D'autres contextes. Je vous livre un autre contexte. Jésus marche dans la ville de Jérusalem. Il se dirige vers la ville basse et il marche dans les petites rues vers une piscine que vous connaissez, Bethesda. Beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence. Ça grouille de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. Tout le monde attendait une hypothétique guérison auprès de cette piscine. Et là, on a un homme handicapé, couché, il ne peut même pas marcher avec des béquilles. Il est malade depuis 38 ans. Jésus savait que cet homme était malade. Il en connaissait les raisons. 38 ans, couché en attendant la guérison, Jésus vient vers lui, tourne ses regards et lui pose une question. « Veux-tu être guéri ?» Mais c'est une étrange question, vous ne trouvez pas ce soir, ce paralytique, il est justement là pour être guéri. Et quand la personne qui se présente, qui est la seule capable de vous guérir, vous pose la question « Veux-tu être guéri ?» Il y a de quoi être surpris quand même. L'Écriture mentionne des personnages qui n'ont pas toujours voulu que Dieu agisse dans leur vie. Autre exemple, Luc 9, on est de l'autre côté du lac de Galilée, on est au pays de Gadara, et là c'est un démoniaque qui accueille Jésus et lui dit « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Retenez bien ça, ne me tourmente pas. Autrement dit, le démoniaque est en train de dire à Jésus, c'est mon interprétation, vous me direz si je me trompe, « S'il te plaît, ne me dérange pas, hein, ne me tourmente pas, ne me dérange pas. Au fond, laisse-moi comme je suis. » Le démon savait qui était Jésus. Bien sûr, laisse-moi comme je suis. Il le dit d'ailleurs à Jésus. Jésus est là pour le guérir. Lui ne veut pas être guéri. Alors on a des gens qui sont témoins de cette scène et ça crée un désordre. Et d'ailleurs ils vont dire, va-t'en, tu perturbes nos affaires. Vous savez, c'est l'histoire avec les porcs, les cochons qui vont se jeter dans la falaise. Va-t'en, au verset 36, rentre chez toi. Autrement dit, mais tu nous gênes dans nos affaires. Nous sommes en train de perdre de l'argent à cause de toi. Tout notre bétail est en train de se mettre dans la mer. En gros, Jésus, tu es un problème pour nous. Va-t'en, l'aspect économique prime sur la guérison. Il ne voulait pas être guéri, Jésus s'en est allé. Et moi je vous pose ce soir une question, est-il possible que nous voulions guérir de nos pensées négatives, de notre comportement, de nos mauvaises habitudes alimentaires, de tous ordres? Est-il possible que nous voulions être remis, comme je l'ai déjà dit dans une prédication, dans le bon sens? Dans le bon sens, parce qu'au verset 35, il y a un possédé qui, après la guérison, le texte dit, il s'est remis dans le bon sens. Vous savez, chers amis, quand on hésite, quand on ne croit pas en une guérison totale, par la seule personne qui peut nous guérir totalement, c'est-à-dire Christ, alors il faut vraiment se poser une question. Est-ce qu'on aime cette personne? Je ne peux pas concevoir personnellement qu'on aime Christ sans que son amour agisse en moi pour me transformer. Encore une fois, l'amour de Dieu veut nous guérir, veut nous transformer, veut nous changer. Qu'est-ce qu'on dirait d'un foyer qui ne prodiguerait pas de bons soins aux enfants, un père, une mère? Que dirait-on d'un mari qui ne prendrait pas soin de son épouse? Et vice-versa, une épouse qui ne prendrait pas soin de son mari, comment vous interpréteriez cela? Si je vous dis ça, c'est parce que Marie-Madeleine ne s'est pas posé ces questions-là. Elle a reconnu en Jésus-Christ son sauveur personnel. J'aime appuyer là-dessus. Avez-vous fait votre rencontre personnelle avec le Christ? Cette rencontre qui vous fait pleurer parfois. Parce que vous prenez aussi conscience de votre condition, chers amis. Comme moi, je peux prendre conscience de ma condition, et encore pas tous les jours. Mais c'est bon de savoir qui nous sommes vraiment et qui est Christ vraiment. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est finalement, au fond, une bonne question. Vous ne trouvez pas? Car la réponse positive à cette question, elle n'est pas si évidente que ça, puisque nous venons de voir qu'il y a des exemples bibliques où des gens ont refusé cette guérison que Jésus-Christ pas seulement une guérison physique, une guérison morale, une guérison spirituelle. Et pourtant, chers amis, quand on est malade, on est plutôt impatient de vouloir guérir, non? Nous arrivons, en tout cas pour la France, à la période hivernale. Si je devais tomber malade d'une gastro-entérite, un rhume, une grippe, la première chose que je ferais, c'est de me soigner naturellement, si possible, et de sortir de cette gastro, de sortir de ce rhume, parce qu'on est impatient de retrouver toute sa forme. Mais est-ce que l'on est aussi impatient de vouloir guérir de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises pensées, de nos addictions, guérir de nos mauvais penchants, un mauvais état d'esprit? Je vous pose cette question. Oui, pourquoi je vous pose cette question au fond? Très simplement parce que mes habitudes personnelles, ma personnalité, mon caractère, ça fait partie de moi. C'est un petit peu ma carte d'identité, n'est-ce pas? Et on est souvent très attaché à son caractère, tout autant qu'à son identité, tout autant qu'à son histoire. Et si je devais laisser agir le Saint-Esprit pour qu'il me transforme totalement, je finirais par ne plus être le même. Mais si je ne suis plus moi-même, si j'ai tellement changé, les gens ne vont plus me reconnaître. Et ça risque de me gêner. Oui, pourquoi ? Ben parce que je suis attaché à qui je suis, même si mon caractère a des défauts, mais je reste attaché et les gens me connaissent comme ça depuis longtemps. Depuis longtemps, ils me connaissent. Et si j'ai un caractère un petit peu spécial, bah les gens vont faire attention à moi, vous savez, ils vont faire attention à ne pas me contrarier, ils vont faire attention à ne pas me vexer quand ils s'adressent à moi. Je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez des gens comme ça, hein, des gens avec qui il faut plutôt prendre des pincettes, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait jamais quelle réaction cette personne peut avoir, on prend avec des pincettes, on fait attention à moi, on a des égards pour moi. Mon entourage, ma famille, mes amis aussi, ils ont des égards pour moi. Mais si je change, chers amis, si je change, je n'aurai plus cette attention que les autres portent sur moi, n'est-ce pas? Je n'aurai plus ces égards vis-à-vis de moi, je n'aurai plus les faveurs d'un tel ou d'un tel. Alors c'est vrai qu'on peut penser à moi, on peut prier pour moi. Mais si je guéris de ce pourquoi les gens prient pour moi, tout sera différent et je ne serai plus le centre d'intérêt des autres. Marie-Madeleine n'avait que faire de cela. Son centre d'intérêt, c'était Jésus-Christ. Elle ne s'est pas posé les questions de savoir encore une fois ce qu'on allait penser d'elle, n'est-ce pas? Veux-tu être guéri? C'est la question toute simple que Jésus nous pose ce soir. Son amour veut nous guérir. Sa compassion, sa miséricorde et sa justice veut nous guérir pour que nous soyons véritablement ses disciples et des disciples qui savent où ils vont et d'où ils viennent et qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée dans tout cela. Je ne suis pas Jésus-Christ parce qu'il ne le récompense au bout. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien parler de cela, parce que je crois que nous avons beaucoup d'arrière-pensées en tête, beaucoup trop d'arrière-pensées. Nous sommes un petit peu dans ce système qui fait que j'avance un pion pour recevoir en retour un autre pion, comme une partie d'échec. Ça ne marche pas avec Dieu. Et Marie-Madeleine en est un parfait exemple. Elle a bravé tout ce qu'il y avait à braver à cette époque-là. Veux-tu être guéri? C'est la question de ce soir. Et nous devons admettre que cette question ne trouve pas une réponse positive systématiquement. Dieu a donné son Fils. Dieu a communiqué beaucoup de choses à l'homme. Il a envoyé des messages, des messagers, des prophètes. Il a envoyé énormément de choses pour que nous puissions l'accepter. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils sur une croix. Il a envoyé des prophètes, vous le savez. Tout cela pour participer aussi aussi à notre guérison. Nous savons que la guérison, c'est une chose importante dans la parole de Dieu. Nous le savons. Dieu sait, Jésus sait que certains s'installent dans la maladie. Ils se plaignent. Oh, je ne parle pas des maladies profondes et graves, mais je parle parfois de comportements. Nous aimons être pleins, nous aimons, encore une fois, que les regards se portent sur nous. Nous cultivons peut-être parfois certaines choses pour attirer les regards. Mais il nous faut répondre à cette question que Jésus nous pose. Veux-tu être guéri? Acceptes-tu mon amour? Oui, mais est-ce que cet amour, je l'accepte au point que Christ me guérisse? Pourquoi je vous dis ça encore? C'est parce que ne pas vouloir être guéri, il y a des gens. C'est croire que si Dieu me guérit, écoutez bien, hein, je serai plus malheureux après la guérison qu'avant la guérison. Ne pas croire qu'il peut me guérir 100% entièrement, eh bien, c'est que finalement, c'est croire que je ne serai pas si heureux que cela après la guérison. Et vous comprenez que cette attitude blesse le Christ, je ne trouve pas d'autre mot, blesse le Christ. Comment penser que je suis plus malheureux si Jésus m'a guéri, moralement, psychiquement, plus malheureux et au fond pas si heureux que ça? Dans Jean 8, verset 10, vous connaissez peut-être ce verset, je le reprends, s'étant relevé, va et ne pêche plus. Il a dit la même chose d'ailleurs au paralytique, et on trouve souvent cette réplique de Jésus, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Mais quand Jésus dit, tu es guéri, cela veut dire aussi quoi au fond? Pour moi, ça veut dire ne te contente pas donc de cette guérison-là physique, et Dieu a guéri physiquement, moralement, mais ne te contente pas du pardon que je te donne, mon ami. Ne te contente pas de ce pardon, ne te contente pas de ce pardon. Ne pense pas que tu as reçu une grâce pour vivre comme avant. Et malheureusement, nous devons admettre que beaucoup considèrent que la grâce leur a été faite par Jésus-Christ à Golgotha et que cette grâce est là pour qu'ils puissent vivre comme avant. Nous sommes sur le terrain de la repentance, nous sommes au-delà même de la repentance, la nouvelle vie, l'apôtre Paul, vivre en nouveauté de vie. Jésus est en train de me dire, ne te satisfais pas de ton ancienne situation, ne te satisfais pas de qui tu étais avant, ne continue pas. Cet amour de Christ qui est l'objet de cette semaine, il s'agit aussi de victoire, un amour qui veut me transformer, qui veut me changer, qui veut me guérir, au fond pour que je puisse remporter des victoires sur mes mauvais penchants, mes mauvaises pensées, mes mauvais comportements, autrement dit mon orgueil, mon hypocrisie, et ça c'est un problème. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas un problème pour Dieu de remettre les compteurs à zéro. Je jetterai d'ailleurs tes péchés, tes iniquités dans la mer. J'effacerai tes transgressions. Vous trouvez ça dans Ésaïe notamment. Mais c'est pour nous, c'est compliqué au fond que Dieu remette les pendules à zéro. Ça nous paraît pas normal au fond qu'il oublie tout cela, toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire, dire ou penser. La preuve, c'est que ça ressurgit à ma mémoire, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, oui, mais nous avons un cerveau, on ne peut pas oblitérer le passé. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais le passé, par définition, c'est le passé pour Dieu. Veux-tu être guéri aussi de toutes ces choses qui remontent à la surface de ta mémoire? Parce que moi, je vais te guérir de ça. C'est ce que Christ vous dit ce soir, n'est-ce pas? Alors finalement, pour les minutes qu'il me reste, veux-tu être guéri? Vous conviendrez, si vous avez apprécié la démonstration biblique, que c'est une excellente question. Oui, c'est une excellente question. et ce n'est pas moi qui la pose, c'est Christ. Il faut être semblable à Jésus plutôt que semblable à soi-même. Au fond, nous regardons trop souvent et le nombril, et nous ne regardons pas suffisamment les mains percées de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est une difficulté que Christ reconnaît, et il est là encore une fois pour nous aider à le regarder. Nous avons un Maître et un Sauveur merveilleux qui pallie à tous nos manquements. Ne regardons pas systématiquement nos manquements, mais plaçons-les plutôt sur le trône de grâce de Christ. Alors, jusqu'où va l'intensité de mon amour? Est-ce que j'accepte sa guérison, qui est une guérison totale, qui est une guérison qui met peut-être du temps chez certaines personnes? Nous sommes tous différents les uns des autres. Mais la guérison, nous savons qu'elle ne peut être que totale avec Christ. Jusqu'où va cette intensité de mon amour pour Christ? Est-ce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un de proche dans ma vie, ou c'est juste une connaissance biblique? Au fond, à quel degré je l'aime? N'est-ce pas? Parce qu'il faut bien dire aussi les choses, il y a une forme de christianisme standard, une espèce de christianisme générique, hein, comme les médicaments, n'est-ce pas? C'est un christianisme qui est tiède, à l'abri du chaud, à l'abri du froid. Mais au fond, nous savons que c'est ça qui menace l'Église. On a un texte dans 2 Timothée 3, verset 1, « Sache que dans les derniers temps, hein, il y a des gens qui auront l'apparence de la piété. » Ce texte parle des croyants, pas des non-croyants, parce que les non-croyants n'ont pas de piété, par définition. Il y a aussi un autre christianisme que l'on pourrait appeler génétique. Après le christianisme générique, il y a un christianisme génétique. Ce sont ceux qui, par exemple, sont nés dans l'Église. Curieuse expression. Réfléchissez bien à cette expression, imagée bien sûr, naître dans l'Église. Naître dans une famille chrétienne ou naître dans un pays chrétien, ça ne fait pas de moi un chrétien, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire que si j'étais né dans un garage, est-ce que ça ferait de moi un garagiste? Si j'étais né dans un avion, est-ce que ça ferait de moi un pilote d'avion? Non, je ne peux pas calquer ma foi sur celle des autres. Après une foi générique, une foi génétique, il y a un troisième christianisme. C'est un christianisme syncrétique, c'est-à-dire un mélange de tout un tas de pensées, tout un tas de une combinaison, on va dire, de différents systèmes de croyances. Et là aussi, c'est un poison. Le Christ veut nous guérir de notre christianisme génétique, générique, syncrétique. Encore une fois, sa guérison est totale pour le cœur de chacun d'entre vous et de moi-même. Quand Dieu guérit, il vous délivre de ce qui vous ronge. Un christianisme tiède, une relation K1, KA, une relation à mi-temps, Dieu guérit tout cela. Alors la question est simple. Est-ce que l'on préfère être connu comme quelqu'un que la puissance de Dieu, que l'agapé de Dieu, eh bien, a guéri? Ou est-ce qu'on préfère être connu comme quelqu'un que la puissance, que l'agapé de Dieu n'a pas guéri? Je vous pose cette question tout simplement ce soir, et en espérant que vous puissiez y réfléchir tout au long de la semaine. Qui est Jésus-Christ pour vous? Avez-vous fait cette rencontre comme Marie-Madeleine? Et acceptez-vous que son amour vous transforme, vous change et vous guérisse totalement avant son retour, une guérison complète, totale, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur les vérités qu'il professe et qui sont absolument bibliques parce qu'il a envoyé, comme je vous le disais, beaucoup de personnes, de prophètes, de disciples pour nous enseigner et pour nous guérir. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à entrer dans cette guérison avant son retour. C'est mon souhait ce soir avec ma voix grave et je vous prie de m'en excuser. Amen.
Amen. Amen et merci beaucoup, frère Christophe, pour ton courage et ta bonne volonté.
Merci.
Nous rendons gloire à Dieu pour ce message d'amour qui nous a été présenté et une fois de plus, malgré la fatigue que certains d'entre nous ressentons, nous voulons remercier encore frère Christophe pour son courage et sa bonne volonté. Que toute gloire revienne à Dieu.
Amen. Gloire à Dieu.
Peux-tu faire la prière finale, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Ô bon Père, tu nous permets, Seigneur, tu nous permets avec beaucoup de tact de ta part, beaucoup de doigté, de rentrer en contact avec toi. Nous ne sommes pas dans le sensationnel, nous ne sommes pas dans le spectacle, dans le spiritisme ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur cette ligne de prière qui souffrent, beaucoup de gens qui traversent des difficultés. Leur vie est comme un désert spirituel, un isolement physique, des gens peut-être célibataires, peut-être des malades, peut-être des veufs, des veuves, des chômeurs, des gens que la vie n'a pas épargnés, mais des gens qui veulent ce soir sentir cette main sur leur épaule, sentir une chaleur qui vient de ton ciel, envahir leur cœur. Tu sais combien, puisque tu nous as créés, que nous avons besoin de nous sentir aimés. Et il n'y a pas besoin, Seigneur, de faire de grands développements pour voir que le monde est en train de mourir à cause d'un manque d'amour. Ce monde qui ne croit pas en toi, eh bien, ne ressent absolument rien de l'autre. Mais nous, qui professons être chrétiens, tu sais que nous avons besoin de ressentir, de vivre, que ce ne soit pas qu'une perception, mais nous avons besoin de vivre cet amour. Et comme un époux vers une épouse, tu as beaucoup de gestes de tendresse. Si nous lisons Sophonie, nous nous apercevons que tu es une douceur, une tendresse avec l'homme en général. Ô Seigneur, permets ce soir que nous ressentions la chaleur de ton amour, une chaleur qui réchauffe, mais une chaleur qui veut nous guérir, qui veut nous conduire dans des temps difficiles et qui veut nous préparer à ton retour. Ô Seigneur, merci, parce que tu n'abandonnes pas. Au nom de Jésus-Christ, amen.
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 Amen. Frères et sœurs, nous vous y convions à rester branchés à 21h chaque soir jusqu'au 22 novembre, à l'exception du samedi 19. Que votre soirée soit douce comme la lune, votre matinée fraîche comme la rosée, votre après-midi brillante comme le soleil. Nous vous souhaitons donc à tous une très, très bonne nuit. Au revoir.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Détourne de tes mauvaises voies.
miséricorde.